Deuxième partie, les mines. Je fus conduit dans une des cellules réservées aux condamnés à mort. Rien que le séjour dans un pareil lieu impliquait une angoisse atroce. Ces cellules affectaient la forme d'une sphère parfaite, une sphère dont les parois étaient faites de différents métaux. Au centre de cette boule creuse, une cage de bambou était suspendue par des haubans rigides qui la maintenaient de façon qu'elle ne pût bouger. Je fus placé dans cette cage, pieds et mains liés. À l'ordinaire, les condamnés ne sortaient plus du réseau de bambou. Des rayons électriques, jaillis de tous les points de la sphère, dissociaient lentement leur corps. Pendant 6 à 7 jours, ils souffraient des tourments sans nom. Rayr seul avait pu assister jusqu'à la fin sans être incommodé au supplice d'un de ces malheureux. Il en avait même fait un rapport qui avait provoqué l'horreur des vieillards du Conseil suprême. Mais le supplice de la sphère, ai-je dit que Rayr en était l'inventeur, avait été maintenu. Rayr avait simplement fait remarquer son utilité. C'était grâce à l'énergie énorme produite par la dissociation de la matière vivante du corps du condamné que les machines électriques permettant d'obtenir la pierre zéro pouvaient fonctionner, et nul n'avait insisté. Je me crois à quelque courage. Pourtant, lorsque la calotte de la sphère se fut rabattue sur moi, que je fus seul dans cette boule aux parois phosphorescentes d'où ne semblait avoir jailli des lueurs violentes ou vertes qui n'étaient produites que par les reflets de différents métaux les composant, je crus bien devenir fou. Je savais que j'avais été condamné à perdre la raison. Je me demandais si je n'avais pas été placé dans cette cage afin que la démence s'emparât de moi. Puis une autre idée me vint. Rayr s'était peut-être ravisé. Il avait pensé qu'il serait plus tranquille une fois que je serais mort. Et il allait envoyer les coureurs cathodiques devant ronger ma substance. J'avais entendu parler des affreuses souffrances qu'enduraient les condamnés. Un frisson me parcourut. Autour de moi, les parois de métal continuaient à luire. Elles se réverbéraient les unes dans les autres, formait d'étranges et sinistres jeux de lumière où je croyais apercevoir des visions d'enfer. Et le silence, un silence absolu au point que je percevais nettement la vibration de mes artères. Je restai ainsi 3 jours, je le sus ensuite. Un caprice de Rayr qui avait simplement voulu ajouter à mes angoisses. La calotte de métal fermant ma prison s'ouvrit. Oh, je n'étais pas encore fou, mais je n'avais certes plus ma raison entière. J'avais souffert. Non, je peux me le rappeler. Ces heures sont imprécises dans mon esprit comme celles d'un cauchemar. Par l'ouverture de la sphère, je vis le visage ricanant de Lim. Il ne m'adressa pas la parole. 2 hommes singes, attachés à des câbles, furent descendus jusqu'à moi. Ils m'attirèrent hors de la cage et me remontèrent avec eux. Jusqu'alors, j'avais gardé mes vêtements. On m'en dépouilla et l'on me fit revêtir une sorte de maillot fait de poils tressés et qui me donna vaguement l'aspect d'une des brutes travaillant dans les mines. Ce furent 2 miliciens qui m'habillèrent. J'avais 1 an auparavant sauvé la vie à l'un d'eux. Au risque d'être surpris et horriblement supplicié, il consentit à répondre à mes questions. Je sus ainsi, très succinctement, que les Nouriens, en réponse à un ultimatum de Rayr, s'étaient soumis, qu'ils avaient accepté d'envoyer chaque année 8 500 jeunes gens devant servir à alimenter les machines à sang. Un comité de biologistes et de physiologistes iliens venait de partir pour Nour, afin de choisir et de ramener, pour commencer, 500 sujets. Déjà, les machines fonctionnaient avec du sang humain. rayés férocement, avaient fait rassembler pêle-mêle les morts iliens, les morts et les blessés de Nouré, et le tout avait été descendu aux abattoirs. Après l'anéantissement de la flotte aérienne de Nour, en effet, le creusement des tranchées avait repris et avait permis de capturer près de la moitié des tarières souterraines des Nouriens, dont l'équipage, fait prisonnier, avait lui aussi été envoyé aux abattoirs des machines à sang. Rhaer était maintenant dictateur, maître absolu d'Illa, ou plutôt des ruines d'Illa. Et mon nom à moi, Xie, était en exécration à tous. On m'accusait d'avoir facilité la fuite et la trahison d'Ilg, d'avoir fourni des renseignements sur le sous-sol d'Illa aux Nouriens, ce qui avait rendu possible l'œuvre néfaste des tarières. Et c'était moi, toujours moi, qui avais, soi-disant, annihilé l'action des courants magnétiques émis par les pylônes de la Grande Pyramide, et qui aurait dû rendre fous les Nouriens. À la vérité, l'émission de ces courants avait été rendue impossible par Ilg, qui, avant sa fuite, avait provoqué des interférences. Le traître avait tout prévu. Ancien ennemi de Rhaer, qu'il avait plusieurs fois humilié, il n'avait pas craint, pour se venger, d'attirer la ruine et la mort sur sa patrie. Ses bombes radiantes n'avaient pu servir, comme je l'avais toujours pensé, car elles étaient aussi nuisibles à ceux qui les lançaient qu'à ceux contre qui elles étaient lancées. Seuls les obus volants avaient pu les utiliser. Ironie du sort, Ilg, qui avait voulu se venger de Rhaer, n'avait réussi qu'à affermir sa puissance. Rhaer, maintenant qu'il avait assuré aux Iliens que leur existence allait être prolongée d'un siècle, était presque un dieu pour eux. Malheur à qui eût osé discuter son pouvoir. Aucun de ces misérables n'avait gardé assez de jugement pour se rendre compte que Rhaer avait provoqué la ruine d'Illa, et que les Noiriens, tôt ou tard, chercheraient par tous les moyens à se soustraire à l'épouvantable tribu exigée d'eux. De ma fille, de Tupaou, nul ne savait rien. Silmé était sûrement morte. Tupaou, oh, qui sait? J'appris encore que les Nouriens avaient refusé de livrer Ilg et le morceau de pierre zéro enlevé par lui, en alléguant qu'il ne savait où était le traître. Toute l'insistance, toutes les menaces de Rhaer s'étaient brisées contre cette réponse. Ce fut à peu près tout ce que je pus savoir. Je ne cherchais pas d'ailleurs à en connaître davantage. Ma curiosité elle-même était émoussée. J'étais dans un état d'hébétude complète, un être certainement au-dessous des hommes singes auxquels j'allais être mêlé. Rhaer avait voulu cela. C'était à peine si un seul sentiment surnageait en moi, ma haine pour le sinistre vieillard. Nanti de mon grotesque accoutrement, qui était collé à ma peau par une glu résineuse, car Rhaer voulait que je rassemblasse le plus vite possible aux êtres grossiers dont j'allais partager la vie, je fus descendu jusqu'aux ascenseurs conduisant aux mines. En chemin, je pus me rendre compte des ruines causées par les tarières de Nour. Ce n'était qu'excavation dans des murailles lézardées, trous, décombres, voûtes écroulées, cornières et longerons tordus pulvérisés, et de nombreux cadavres noircis, décomposés, d'innombrables débris humains restaient encore parmi ce chaos sans nom. Rhaer avait voulu cela. Flanqué de Lim, de deux membres du Conseil suprême et de quatre officiers de la milice, j'arrivais devant les puits des mines. Ils étaient intacts. La profondeur à laquelle ils étaient situés les avait protégés, et les tarières des Nouriens n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à eux. Ces puits, au nombre de trois, étaient formés par des tubes de métal épais d'environ 2 mètres et d'un diamètre inférieur de 3. Ils étaient placés en triangle au milieu du courant souterrain du fleuve, à pas, qu'une voûte lumineuse, pratiquement indestructible, recouvrait. Un simple commutateur et les vannes percées dans les parois des puits s'ouvraient instantanément, provoquant le noyage des mines et des hommes singes qui y travaillaient. Le personnel illien, chargé de la surveillance et de la partie technique, portait des uniformes munis de masques à air, pouvant leur permettre de gagner des chambres de sûreté et d'y attendre, fût-ce un mois, qu'on vint les délivrer. Des réservoirs d'air respirable solidifiés y étaient placés. Nous prîmes place dans l'ascenseur, un cylindre métal étanche qui se manœuvrait de l'extérieur, soit d'en haut, soit d'en bas, dans les mines. Nous arrivâmes en silence, à une vitesse vertigineuse. De temps à autre, Lim me lançait un regard sarcastique. Sans les chaînes qui enserraient mes bras et mes chevilles, j'eusse sauté à la gorge du misérable espion de l'homme qui avait tenté d'assassiner ma fille et qui lâchement, vilement, insultait à ma misère. Nous arrivâmes enfin. Je passai rapidement dans le bureau du directeur de la mine, un gros homme au teint blafard, répondant au nom de Gann. Il me considéra longuement, sans mot dire, et appuya sur le bouton d'une sonnerie. Deux surveillants arrivèrent. Ils devaient attendre dans une pièce voisine. Deux colosses aux faces bestiales, au corps revêtu d'une sorte de cotte de maille. Ils portaient à la ceinture un fouet à court manche dont la mèche se terminait par un aiguillon. « Prenez soin de ce traître !» fit Lim en les regardant fixement. Les deux hommes s'inclinèrent, ils s'approchèrent de moi et me poussèrent brutalement devant eux. Ma rage, mon désespoir m'empêchèrent de bien me rendre compte de ce qui se passa ensuite. Je franchis plusieurs portes blindées qu'un mécanisme secret devait faire mouvoir, car elles s'ouvrirent et se refermèrent sans que mes gardes du corps y touchassent. Et enfin, je traversai une étroite galerie, 1 mètre de large, 2 de haut, et débouchai dans une vaste crypte surbaissée, dont les parois, sur 3 de ses 4 côtés, étaient formées par une cascade d'eau phosphorescente qui tombait verticalement dans une fissure du sol. Je n'étais jamais descendu dans les mines du métal par excellence. Je savais qu'elles étaient situées à plus de 9 000 mètres au-dessous de la surface du sol et que les ingénieurs iliens, pour permettre aux ouvriers d'y vivre, y avaient amené l'eau d'un torrent souterrain, de l'eau artificiellement glacée et rendue phosphorescente, et qui combattait la chaleur dégagée par la croûte terrestre. 7 tranchées parallèles étaient creusées dans le sol. Au fond de chacune d'elles, à une demi-douzaine de mètres de la surface de la crypte, des hommes singes travaillaient sous la surveillance des contremaîtres. Ils peinaient sans relâche, arrachant le minerai de leurs pics maniés avec une vigueur formidable. En certains points, j'étais obligé, pour suivre la veine du minerai, d'adopter des positions extrêmement pénibles qui les faisaient se contorsionner horriblement. Leur grognement se mêlait aux cris des surveillants et au sifflement des fouets. Le grondement des 3 cataractes ajoutait une sourdine à ce vacarme, et la lumière verdâtre dégagée par l'eau phosphorescente éclairait cette horrible vision. C'était ce minerai qui, après d'innombrables manipulations chimiques et électriques, devenait le métal souple et assimilateur des machines à sang. 1 000 kilos de minerai donnaient 0,3 de grammes de métal. Mes deux gardiens me conduisirent à un surveillant qui, après m'avoir longuement considéré, me coupa la figure d'un brutal coup de fouet et d'une poussée m'envoya rouler au fond d'une tranchée. Je l'entendis qui grommelait je ne sais quelle parole que je ne pus comprendre. Je me relevai. Un des hommes singes proches de moi me flaira, m'adressa quelques mots à peine articulés et me fit passer une pioche. Je me mis au travail. Un travail extrêmement pénible et épuisant, d'autant plus que je ne possédais pas le dixième de la vigueur des hommes singes. Fouaillé, menacé, insulté, je travaillais. J'avais été condamné à perdre la raison. Combien de temps allais-je souffrir avant que cette sentence reçût son exécution? Ma fille était morte. Si je devenais fou, mes projets de vengeance contre Rer deviendraient vains à jamais. Et mourir sans m'être vengé me semblait mourir deux fois. M'évader, durant la première heure de ma descente dans la mine, j'y songeais. Ce fut pour me convaincre de l'imbécilité d'une pareille pensée. Seul de ma race, épié sans répit, affaibli, mais comment pourrais-je tromper la surveillance de mes gardiens, forcer les portes secrètes, trouver mon chemin à travers les galeries, faire fonctionner l'ascenseur, et ensuite revenir à la surface? Fangar était mort? Groset, oh, qui pouvait savoir ce qu'il était devenu? Irel était plus puissant que jamais. Non, il fallait abandonner toute pensée de fuite et de vengeance, et se résigner à la folie ou à la mort. Pas d'autre alternative. Je travaillais en ruminant ces désespérantes idées. Enfin vint l'heure du repos. Sous le fouet, je grimpai hors de la tranchée et me mis en file avec les hommes singes, comme moi chargés de chaînes, que l'on vérifia maillon par maillon. Et nous fûmes poussés comme du bétail dans nos dortoirs. Ici, l'action de la pesanteur n'était pas équilibrée, comme à Illa, par des planchers anti-gravité. Tout au contraire, la profondeur où nous nous trouvions l'accentuait encore. Déjà affaibli, je marchais avec peine, et arrivai enfin dans le dortoir, ou plutôt l'écurie, une longue galerie jonchée de paille métallique, qui nous servait de logement. Je dus, comme mes compagnons de misère, manger, absorber des mélanges dégoûtants, des herbes cuites, de la chair d'animaux, débris des porcs et des singes tués pour alimenter les machines à sang. Mon estomac, qui n'avait jamais absorbé que de l'eau pure depuis ma naissance, se révolta. Ce qui fit ricaner mes grossiers compagnons. Et je finis par m'endormir. Que dire de mon existence pendant les jours qui suivirent? Je fus foyé, criblé de coups d'aiguillon par les surveillants. Mes compagnons de misère, les hommes singes, loin de me plaindre, se divertirent de me voir frappé et maltraité. Plusieurs d'entre eux, même une fois dans le dortoir, enfin dans l'étable, prirent plaisir à m'empêcher d'approcher des baquets où nous nous repoussions. Car j'avais fini par manger, par avaler les immondes débris dont je devais me soutenir. Il le fallait. Que je mangeasse ou non, je devais travailler. Peu à peu, je prenais une mentalité de brute. Parfois, je me surprenais à attendre avec impatience l'heure de me repaître. Moi, qui avait méprisé Yelug. Je travaillais, je courbais le dos sous les coups, je subis les brutalités de mes sauvages compagnons. Je ne devins pas fou. Rer voulait faire durer ma misère. De temps à autre, oh, je ne saurais dire à quels intervalles, car il m'était impossible de mesurer le temps, Lim apparaissait dans la crypte. Il venait me contempler. Il me considérait en ricanant. Il buvait sa joie de me voir ainsi abaissé, moi qui avais été son chef, moi qui l'avais méprisé avec juste raison et ne lui avais pas caché à cet espion. Peu à peu, je m'endurcis. Mes muscles gonflèrent, ma peau s'épaissit. Je souffris moins des coups de fouet et d'aiguillon. Un indéfinissable espoir s'infiltra dans mon cerveau affaibli. Et comme, au cours d'une période de repos, un de mes camarades de misère, un énorme homme singe, qui couchait à mon côté et que l'on appelait Ouh, m'avait renversé dans l'étable pour s'amuser à mes dépens. J'appelais à moi toute mon ancienne fierté et d'un formidable coup de poing au bon endroit, à la pointe du menton, l'étendit à mes pieds. Poussant des grognements farouches, plusieurs de ses congénères firent mine de se ruer sur moi. Je me crus perdu. Quels que fussent mes sentiments, et en réalité je n'étais guère rassuré, je ne les montrais pas. La tête haute, je regardais mes ennemis bien en face. Pendant une longue seconde, ma volonté et celle des hommes sages s'affrontèrent. Et les brutes, domptés, baissèrent les paupières. Des siècles d'affaires de servissement les avaient habitués à l'obéissance. Ce n'était pas en vain que leurs pères et les pères de leurs pères avaient vécu comme des esclaves. Esclaves ils l'étaient, d'âme et de corps. Ouh se releva et, soumis, me prit la main dans les siennes et l'appuya contre son cœur qui battait tumultueusement. D'un petit coup sur l'épaule, je lui marquai que nous étions amis. Et nous le fûmes. Ou, patiemment, dévotieusement, m'a pris le langage secret des hommes singes. Car ces brutes, à défaut d'intelligence, possédaient une dose incroyable d'astuce. Leur terreur des surveillants était trop grande, et leur habitude de se soumettre trop à et ancrée en eux, pour qu'ils songeassent à la possibilité d'une révolte. Mais ils avaient créé une sorte de langage secret qui leur permettait de communiquer entre eux sans que les surveillants s'en aperçussent. Ouh m'apprit à manier la pioche et le pic et les outils de toutes sortes employés pour arracher le minerai du sol. Il m'enseigna les ruses nécessaires pour éviter de se fatiguer. Il travailla à mes côtés, m'évita les tâches trop dures pour ma force et pour mon manque d'adresse. Car les hommes singes, grâce à la sélection opérée par les biologistes iliens, possédaient quatre mains et étaient doués, je l'ai déjà dit, d'une force comparable à celle de 8 à 10 hommes ordinaires. Le temps passa. Par l'entreprise doux, je me fis d'autres amis et peu à peu l'espoir revint en moi. J'osais envisager mon retour à l'air pur, sous le soleil brillant, dans le ciel bleu. Entreprise difficile, mais non plus impossible. Pour l'accomplir, point n'était besoin de grande imagination. Il n'y avait qu'un moyen, se débarrasser des surveillants et des techniciens iliens. C'était faisable. Les hommes singes, je le savais maintenant, étaient des brutes, mais des brutes astucieuses, qui avaient créé un langage à eux, et qui par conséquent étaient capables de raisonner et de garder un secret. Je m'ouvris à Ouh de mes espoirs. Massacrer les Iliens des mines, revenir à la surface et se rendre maître d'Illa. Après quoi, plus de travail forcé au sein de la terre, la vie libre sous le ciel. Sous le ciel, Illa. En entendant prononcer ces paroles, Ouh me regarda avec un étonnement stupide. Il ne savait pas ce qu'était le ciel, ce qu'était le soleil, ce qu'était Illa. Comme ses congénères, il était né dans la mine. Son père, ses aïeux, étaient nés dans la mine. Et il ne savait pas que d'autres êtres que les surveillants foyeurs existaient. J'eus beaucoup de peine à lui faire la description d'Illa, et encore simplifiai-je bien des détails. Les mots me manquaient pour me faire comprendre. Je réussis pourtant à donner une vague idée à mon ami de ce qu'était le joyau du monde, Illa la glorieuse. Naturellement, je me gardais bien de lui faire part des terribles moyens de défense et de destruction dont disposaient les Iliens. Ouh savait, je lui avais dit, que j'avais été un des plus puissants chefs des hommes. Il avait parfaitement compris que j'étais victime d'une vengeance. C'était un sentiment que les hommes sages connaissaient, la vengeance. J'avais un ennemi. Nous nous haïssions. Cet ennemi était plus puissant que moi. Il en avait profité. Où avait trouvé cela tout naturel? Il n'eut pas compris qu'on fût le plus fort et qu'on n'en profita point. Sinon, à quoi bon être le plus fort? Il me fallut longtemps avant de convaincre Hou et surtout de lui faire comprendre le bonheur qu'il attendait s'il se libérait. Je ne sais pas s'il me comprit. Je crois qu'il pensa surtout à la possibilité de tuer un certain surveillant qui s'acharnait à le fouetter plus qu'il ne le fallait. De plus, il me fallut vaincre la superstitieuse terreur que le simple Hou professait à l'égard des hommes. La pensée que moi, homme, serais avec lui, il le rassura un peu. Il fut enfin convaincu. Avec une astuce qui m'émerveilla, il mit ses congénères au courant de nos projets. Il employa peu d'arguments, toujours les mêmes. D'abord, on tuerait les surveillants, on ne travaillerait plus, on mangerait autant qu'on le voudrait, et on irait dans un endroit merveilleux où les hommes singes seraient les maîtres et à leur tour fouetteraient leurs surveillants. C'était simple et facile à comprendre. Et les brutes ne demandaient qu'à se laisser convaincre. Ils ignoraient, heureusement, qu'une révolte semblable, tentée 2 siècles auparavant, avait misérablement échoué, et que les mutins avaient été suspendus tout vivants à des crocs de métal comme des animaux de boucherie, au-dessus des tranchées de minerais, où ils étaient restés agonisés pour servir d'exemple à leurs congénères. Leurs cadavres momifiés pour éviter une épidémie avaient pendant longtemps orné la sinistre crypte. Tous les écoliers d'Illa savaient cela. Les hommes singes, non. On avait jugé qu'il valait mieux qu'ils ne le sussent afin d'éviter, malgré tout, qu'ils aient la pensée de recommencer la tentative. Tandis que mon ami, oui, mon ami, un homme singe à moi, qui avait guidé les armées d'Illa, Horaire. Oui, tandis que mon ami Hou procédait à sa propagande, j'avais soigneusement, patiemment, élaboré un plan d'action. Les détails que je connaissais de longue date sur les mines d'Illa, joints à ce que j'avais observé depuis que j'étais ravalé au rang d'une brute, me servirent bientôt. Tout d'abord, les hommes singes, sous ma direction, se fabriquèrent des limes pointues avec des débris d'outils. Ces limes devaient leur servir en même temps à couper leurs chaînes et à égorger leurs surveillants. Ces derniers, recrutés parmi la plus basse plèbe d'Illa, avaient fini depuis longtemps par se croire parfaitement en sûreté. Leur autorité n'était pas contestée. Les hommes singes leur obéissaient avec une servilité d'esclave, et jamais il ne fut venu à l'idée d'un de ces valets de bourreaux, abrutis par leur séjour au fond des mines, que les brutes qu'ils foyaient, et qui n'étaient guère plus brutes qu'eux-mêmes, pourraient songer à se révolter. Aussi la sévérité des consignes, qui avaient été remises en vigueur lors de mon arrivée dans la mine, s'était-elle peu à peu relâchée, comme elle l'avait toujours été. Moi-même, j'étais docile, soumis. Je rampais, je contrefaisais la soumission et la terreur la plus abjecte, ce qui m'avait d'ailleurs concilié quelque bienveillance. Les surveillants étant fiers d'humilier et de ravaler un homme qui avait été illustre entre les plus illustres des Iliens. Ils savaient que j'avais sauvé la patrie quelques années auparavant, s'ils ignoraient que je venais encore de la sauver. Le moment, si longtemps attendu, le moment que j'avais cru ne jamais advenir, ce moment arriva. Nous travaillions pendant environ 6 heures sans arrêt, et nous nous reposions 4, et cela sans jamais aucune interruption, m'étant assuré que chacun des 3000 hommes singes possédait sa lime poignard, je fis circuler la nouvelle que ce serait pour le repos qui suivrait. Et pour la 20e fois peut-être, je voulais éviter toute cause d'erreur ou de confusion, j'expliquais minutieusement à Hou et à une douzaine d'autres hommes singes que j'avais jugés plus intelligents, plus astucieux que les autres, les moindres détails de l'opération projetée. Mais comment ne fus-je pas trahi quand je pense que plus de 3000 êtres connurent mes projets? Si ça avait été des hommes! Mais ces brutes, si elles savaient peu de choses, les savaient bien. Leur sentiment était simple. Tous haïssaient leurs bourreaux. Tous se réjouissaient à l'idée de les tuer. Ils ne voyaient pas plus loin. Leurs chaînes étaient solides, ou l'avaient été. Endormis comme ses subordonnés, dans une sécurité stupide, et de plus avare et avide, Garn, le directeur de la mine, n'avait pas fait changer ses chaînes depuis longtemps, bien qu'il se fût fait payer le prix de nouvelles entraves par le trésorier du Conseil suprême. Aussi, la plupart de ses chaînes étaient-elles oxydées par l'épaisse humidité qui régnait éternellement dans les profondeurs de la mine et qui était produite par l'évaporation de l'eau des cascades dont les ventilateurs ne parvenaient pas à expulser les vapeurs. En un quart d'heure peut-être, tout fut fini. Leurs chaînes sciées, leurs 4 membres libres, les hommes singes rampant sans bruit sur leurs 4 mains, leurs yeux jaunes luisant comme des disques d'or, atteignirent les portes de leurs étables. Elles étaient solides, ces portes, mais dans chaque étable dortoir, un énorme bloc de minerai avait été secrètement introduit. Un bloc pesant 1 millier de kilos. Soulevé par 2 hommes singes, il fut projeté contre le panneau qui s'effondra sous le choc. Et les brutes frémissantes débouchèrent dans la crypte. À la clarté phosphorescente des 3 larges cataractes d'eau glacée, j'assistai à un spectacle sans nom. Les surveillants, réveillés en sursaut par le fracas des portes effondrées, accoururent, munis de bombes fracassantes, qui lancèrent dans les rangs serrés des hommes singes. Ce fut une horrible hécatombe. Des glacissements, des râles, des aboiements de rage et de souffrance dominèrent le mugissement des chutes. Plusieurs centaines d'hommes singes avaient été anéantis. Il en restait beaucoup. Ces survivants ne laissèrent pas le temps à leurs ennemis de lancer de nouveaux engins. Ils s'élancèrent vers eux, les rejoignirent. Ce qu'ils firent ensuite, je n'ai pas de mots pour le décrire. Des surveillants, en quelques secondes, il ne resta plus qu'une bouillie. Je m'étais jeté à plat ventre sur le sol pour n'être pas atteint par les bombes. La crypte vide de surveillants vivants, je me relevais et, non sans peine, ralliais mes compagnons. La porte de métal donnant sur la petite galerie par laquelle on accédait dans la crypte avait été fermée du dehors. Les hommes singes, sur mes conseils, creusèrent rapidement une excavation sous le battant. Ils la creusèrent avec leurs lime poignards et aussi avec leurs ongles. Le carnage des Iliens les avait rendus comme fous. Les bombes enlevées aux surveillants furent entassées dans le trou, et l'une d'elles fut lancée sur les autres, dont elle provoqua l'explosion. Un choc effroyable, suivi d'un grondement sourd. La porte n'existait plus, mais une partie de la crypte s'était effondrée, fracassant en même temps une des 3 digues retenant l'eau des cataractes. Une gigantesque avalanche de liquide dévala dans la crypte. Roulés, soulevés, submergés, culbutés, je réussis à nager pourtant. Autour de moi, j'entendis, je sentis grouiller les hommes singes qui, épouvantés, nageaient éperdument, mus par le simple sentiment de la conservation. À quelques mètres de moi, je distinguais la lézarde de la digue à travers laquelle l'eau jaillissait avec un grondement d'ouragan. Je n'en pus voir plus, car je fus aussitôt entraîné par le courant. Une sorte de tourbillon m'aspira brutalement. Je sentis que je tombais avec une rapidité vertigineuse. Dans ma chute, je me heurtai à de nombreux hommes singes qui, affolés, essayèrent de s'agripper à moi. Je crois bien que je poignardais quelques-unes de ces brutes pour leur faire lâcher prise. Je me heurtais douloureusement à des blocs de pierre et, confus, sanglant, une épaule ouverte, plusieurs ongles arrachés, je me trouvais, sans savoir comment, dans ce que je crus être un lac souterrain, sous une haute voûte. Je pris pied sur la berge. J'étais sous les puits des ascenseurs des mines. Autour de moi, les hommes singes abordaient les uns après les autres. Pas un ilien. Au centre du lac, soutenu par d'énormes piliers de métal et de maçonnerie, trois énormes colonnes rondes montaient vers la voûte qu'elle semblait soutenir. Ces colonnes, qu'une peinture au phosphore rendait faiblement lumineuses, étaient creuses et contenaient les cages des ascenseurs, ainsi que je devais m'en rendre compte. En quelques instants, tous les hommes singes survivants, oh, un peu plus d'un millier, furent réunis autour de moi. Ils m'entourèrent, glapissant, criant, se pressant, se bousculant furieusement. Je ne vis pas où. Non sans peine, je réussis à obtenir un silence relatif qui me permit de me faire entendre. J'expliquais, autant bien que mal à ces brutes, qui devaient attendre et que j'allais faire le nécessaire pour regagner avec eux la surface du sol, l'endroit où ils seraient libres et heureux et mangeraient autant qu'ils le voudraient. On m'accorda ce répit. J'étais terriblement embarrassé. Nous n'avions ni bombe ni explosif quelconque à notre disposition, et je me demandais comment je me tirerais de là. Je me voyais déjà la proie de la horde des hommes singes affolés et désespérés. Une terrible mort, plus terrible que Rère ne l'eût jamais imaginé. Il fallait trouver quelque chose, et vite. Je sentais peser sur moi le regard ardent des prunelles jaunes des quadrumanes. J'affectais une assurance parfaite, et me mis en devoir d'explorer rapidement la grotte où nous avions été déversés. J'abandonnai la berge et, à la nage, m'approchai d'une des trois énormes colonnes. À ma grande surprise, j'aperçus, rivée dans la maçonnerie, une série de tringles de métal disposées de façon à former les degrés d'une échelle. Je les gravis et, arrivé à la voûte, constatai qu'une trappe y était aménagée. Sans doute servait-elle au passage des ouvriers lors des réparations. Je la touchai, elle était fermée et rendait un son mat qui décelait sa forte épaisseur. Je frappai fortement sept fois, puis trois fois contre le panneau. C'était le signal employé pour se faire ouvrir dans les couloirs de la pyramide du Conseil. Je l'avais frappé au hasard, sans aucun espoir, pour répondre à une pensée qui venait d'éclore dans mon cerveau. Presque instantanément, la trappe s'ouvrit. La face inquiète d'un officier de la milice apparut dans l'ouverture ronde. Mes deux mains se refermèrent autour de son cou. Je serrai frénétiquement avec tant de rage que mes pieds glissèrent de l'échelon de métal où j'étais perché et que je restais suspendu par les mains au cou de ma victime qui essayait en vain de me faire lâcher prise. Je sentis le malheureux s'affaiblir. D'une secoue, je réussis à reprendre pied sur l'échelon et, repoussant l'officier sans vie, franchis l'ouverture. Une vive lumière m'aveugla. J'eus le temps de voir plusieurs ombres des uniformes. Et je fus aussitôt saisi par 10 poignes furieuses. Ainsi que je devais le savoir par la suite, je me trouvais dans le corps de garde chargé de la surveillance des assises des ascenseurs de mines. L'officier qui commandait le poste avait été avisé de la révolte des hommes singes. Et en m'entendant frapper, il avait cru que c'était un des ingénieurs, les seuls qui connussent le signal réservé au chef. Et déjà ému par les nouvelles qui venaient de lui parvenir, avait instinctivement, impulsivement, ouvert. Mais revenons-en à moi. Renversé par mes agresseurs, je tentais de me débattre avec l'énergie du désespoir. En vain. Mes assaillants étaient trop et avaient trop d'intérêt à me capturer. « Mais c'est le traître Xier !» s'était exclamé l'un d'eux. Je compris que j'étais perdu.